Chapitre 19. 21 avril 1990. Nina est seule dans sa chambre, ruminant la journée d'hier, l'anniversaire d'Adrien, son synthétiseur, les mots de Marie-Laure. Marion était drôle, gentille, bavarde aussi. Un blond qui tirait sur le roux, des yeux verts. Après le décès de ta grand-mère, elle s'est murée dans le silence. Nina entend quelqu'un pousser le portail devant sa maison. Elle reconnaît le pas lourd d'Étienne, le bruit des roues du skate qu'il pose sur le perron. Et si Paola n'aboie pas, c'est qu'elle connaît celui qui pénètre dans son domaine. Nina s'extirpe de ses pensées, planque le contenu d'une enveloppe sous son oreiller. Ce qui l'a intriguée en fouillant dans la sacoche de son grand-père, c'est que le nom et l'adresse du destinataire étaient faits de lettres découpées dans du papier journal, comme dans le vieux film de Clouzot, Le Corbeau. Nina a prestamment glissé l'enveloppe dans une poche pendant que Pierre Beau avait le dos tourné. Puis elle a lu et relu ces mots. « Jean-Luc, toi, l'idiot, le cocu, la honte du quartier haut, tu vas crever, c'est ta dernière année, tout le monde croira que c'est un accident, personne saura jamais rien sauf toi. Toi, tu sais ce que tu as fait et pourquoi tu vas payer. Faut que tu saches, on baisera ta veuve. » Elle a été choquée par cette haine. Pour la première fois, elle a décidé de brûler la lettre, de ne pas la remettre dans le courrier. Ou alors aller voir la police? Non, elle se ferait arrêter et son grand-père renvoyé de la poste. Et si on trouvait ses empreintes dessus et qu'on l'accusait? Mais si elle la détruisait et que ses ignobles mots n'étaient pas des paroles en l'air? Et s'il arrivait quelque chose au destinataire? Jean-Luc Morand? Qui est Jean-Luc Morand, 12 place Charles de Gaulle à la Comelle? En attendant de prendre une décision, elle descend au rez-de-chaussée pour accueillir Étienne. Il veut devenir flic, pense-t-elle en lui ouvrant la porte. Et si elle lui demandait conseil? Étienne fait une drôle de tête. Il l'embrasse, lui demande si ça va. Il a quelque chose pour elle. Du coup, Nina oublie la lettre anonyme. « Mais avant de te montrer, tu vas prendre ta ventoline », lui annonce-t-il d'un air solennel. « Pourquoi ?»« Parce que je te connais. » »« Mais obéis », lui ordonne-t-il. Nina remonte dans sa chambre pour prendre son traitement en levant les yeux au ciel. Parfois, elle a envie de tuer Étienne tellement il l'énerve. Du coup, elle ne lui montrera pas la lettre. Il veut trop tout commander. Elle le retrouve dans la cuisine. Il se fait couler un verre d'eau au robinet. Il a posé son sac à dos sur la table. Étienne change de jour en jour. Des trois, c'est lui qui grandit le plus vite. Un duvet commence à couvrir sa lèvre supérieure. Il trouve ça tellement disgracieux qu'il le rase chaque matin. Il n'a pas d'acné, contrairement à Adrien. Et si par malheur une rougeur apparaît sur son visage, la moindre imperfection, il lui fait la peau à coups de crème et de lotion en tout genre. Étienne passe son temps à se regarder dans le miroir. Sa voix a commencé à muer. Il a l'air d'avoir 17 ans, alors qu'il n'a pas encore soufflé ses 14 bougies. Nina aspire sa ventoline d'un coup sec devant lui. Il sort une enveloppe contenant 3 photographies de son sac. « Ma mère m'a donné ça pour toi. C'est des photos de la tienne qu'elle a retrouvées. » Nina découvre une photo de classe en noir et blanc, des filles en blouse d'écolière. Celle du milieu porte une ardoise sur laquelle on peut lire « École Danton, 1966-1967 ». Nina écarquille les yeux. Elles sont nombreuses. Avant de chercher sa mère parmi elles, Nina regarde les 2 autres clichés. 2 photos qui semblent plus récentes, presque identiques. Un groupe de 7 collégiennes qui posent côte à côte en souriant. Au dos, on peut lire « Abbaye de Cluny, 1973 ». On sent qu'il y a du vent. Elles retiennent toutes leurs cheveux et plissent les yeux à cause du soleil. Ma mère m'a dit que c'était un voyage scolaire qu'elles avaient fait avec le collège. Étienne désigne 2 personnes. La mienne est là, la tienne ici, juste à côté. Nina se penche sur la jeune femme de 15 ans. Un fantôme au regard clair. Marion Beau sourit. Elle semble avoir les dents qui avancent un peu. Ses cheveux sont tirés en queue de cheval. Elle porte une jupe courte, un pull et des chaussettes blanches. Nina observe aussi Marie-Laure qui se tient juste à côté. Même visage qu'aujourd'hui, malgré les traits poupins. Tu es sûre que c'est Marion ? Chuchote Nina. Oui, celle avec les chaussettes blanches. Je ne lui ressemble pas. Pas du tout. Mais alors je ressemble à qui ?
Ben,
à ton père sûrement. Tu peux garder les photos, ma mère te les donne. M'en fiche, elle m'a abandonnée. Étienne est mal à l'aise. Parfois, il trouve que Nina a de drôles de réactions, qu'elle est trop imprévisible. C'est elle qui a demandé à Marie-Laure si elle connaissait Marion, et maintenant elle ne veut plus savoir. C'est quand même compliqué, les filles. « Tu fais quoi aujourd'hui ?» demande-t-il pour changer de conversation. « Je sais pas, je vais réviser un peu. » Adrien nous attend à 4h chez lui pour voir un film. Tu restes avec moi en attendant ? Non, je te retrouve chez lui. Étienne est soulagé de partir. Il ne claque pas la porte. Un courant d'air dans la maison. Les 3 photographies laissées sur la table de la cuisine tombent par terre. Nina referme derrière lui, les ramasse et monte dans sa chambre. Le lendemain, c'est jour de lessive. Pierre Beau ne travaille que l'après-midi. Il récupère les draps dans sa chambre, ouvre la fenêtre, du vent sur son matelas nu. Puis il pénètre dans celle de Nina. D'habitude, il frappe avant d'entrer, mais elle est au collège. Un tas de vêtements par terre, du propre et du sale mélangé. 2 chats dorment dessus. En le voyant entrer, l'un d'entre eux s'étire paresseusement. Des tasses de chocolat vides, des livres scolaires et des cahiers les uns sur les autres. Des centaines de feuilles à dessins crayonnés, par terre, dans des cartons, certaines accrochées au-dessus du bureau, principalement les animaux et les 2 amis de sa petite fille. Elle dessine si bien. Peut-être qu'un jour elle sera célèbre et que ses œuvres s'arracheront dans le monde entier. En attendant, il va falloir ranger tout son bordel. Pierre Beau soupire. Pas facile d'élever une petite tout seul. Il pense à Odile, sa femme. Si elle était encore de ce monde, tout ce souk n'existerait pas. Rien n'aurait été pareil avec elle. Sur les murs, des posters punaisés les uns à côté des autres. Indochine, The Cure, Dépêche Mode. Odile n'aimait que Joe Dassin. Pierre en était même un peu jaloux. Après la mort de sa femme, il n'a pas jeté les 33 tours. Il aurait pu les donner, mais imaginer quelqu'un d'autre les écouter lui était insupportable. 5 ans après Odile, c'est Joe Dassin qui est mort. Pierre a pensé « Il va la retrouver là-haut. Cette fois, je l'ai vraiment perdue. Je ne pourrais pas rivaliser. » Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Lui, au moins, il était bien coiffé et toujours tiré à 4 épingles, dans des costards blancs. Pas comme les oseaux que Nina exhibe sur les murs de sa chambre, avec leurs cheveux droits sur la tête et leurs allures dégingandées. Des hommes qui se maquillent, on aura quand même tout vu. Drôle d'époque. Un matin, les parents d'Odile avaient emménagé dans la maison en face de chez lui. Pour lui parler, Pierre n'avait pas trouvé d'autre moyen que de lui voler son vélo un jeudi après-midi et de lui rapporter le samedi suivant. 3 jours pendant lesquels il l'avait caché. « Bonjour, je crois qu'il est à toi, je l'ai trouvé dans le quartier haut, contre une palissade. » Odile avait fait semblant de le croire. Ils s'étaient mariés à 17 ans. De leur union était née Marion, et puis pas d'autres enfants. Pierre en aurait voulu 3. Une fille, un garçon, une fille. Odile s'était arrêtée à la première. Pierre Beau enjambe le bordel de Nina, retire la housse de couette, les draps et la tête d'oreiller. 3 enveloppes tombent sur le sol, dont une lettre. Jean-Luc, toi l'idiot, le cocu, la honte du quartier haut, tu vas crever, c'est ta dernière année. Tout le monde croira que c'est un accident. Personne ne saura jamais rien sauf toi. Toi, tu sais ce que tu as fait et pourquoi tu vas payer. Faut que tu saches, on baisera ta veuve. Pierre Beau lit le nom des destinataires sur les enveloppes. Quelques secondes pour réaliser que Nina ouvre le courrier. Il s'en doutait. Ne voulait pas se l'avouer. Un jour, il a trouvé que Nina faisait une drôle de tête en tournicotant autour de sa sacoche. Une tête de coupable, la même que quand elle ramenait un chaton en douce à la maison et qu'elle le cachait pour qu'il ne s'aperçoive de rien, jusqu'au jour où elle disait « Pitié, papy, on le garde, de toute façon, ça fait super longtemps qu'il vit chez nous. » Il panique, comme des éclairs dans les yeux. Cela le ramène immédiatement à sa fille, Marion. Son châtiment, la même. Quelque chose de l'ordre du malheur qui coule dans leurs veines. La mère a contaminé la fille. La mère et la fille. Une affliction. La colère le fait trembler. Il abandonne les draps et les enveloppe par terre, sort sans fermer la porte derrière lui. Il serait incapable de dire tout ce qu'il voit pendant le trajet à part du rouge. Une envie de tuer. Tout ce qu'il a fait pour elle. Travailler, rester en vie, pour elle. Se lever, se laver, déjeuner, partir travailler, rentrer, préparer le dîner, pour elle. Se serrer la ceinture, pour elle, rien que pour elle. Pour que jamais elle ne manque de rien. Il la revoit bébé. Les biberons, le lait Galia, premier et deuxième âge. Les poussées dentaires, ses vaccins, ses premiers pas. Acheter ses robes. Ne pas savoir choisir les tailles, ses chaussures. Chaque matin, elle est là, et il n'en revient pas qu'elle soit là. Qu'elle grandisse, qu'il l'élève et qu'elle s'élève. Nina ouvre le courrier. Derrière son dos. Une trahison. Est-ce que ça fait longtemps? Si quelqu'un le découvre, il perdra son travail. Il sera licencié pour faute grave. Il n'a pas le droit de rapporter du courrier chez lui. Il sera jugé, sûrement condamné. Prison avec sursis, peut-être ferme. Et elle, que deviendra-t-elle? Qui s'en occupera? Que diront les gens? Ils porteront plainte? Ouvrir le courrier d'autrui, c'est grave. Nina ira en famille d'accueil. Le pire cauchemar de Pierre depuis qu'elle est née. Si je meurs, où ira-t-elle? Ce n'est pas sa mère qui la récupérera. Il dira que c'est lui qui ouvrait le courrier. Il dira que Nina est innocente, qu'elle n'y est pour rien, que lui seul est responsable. Une tête de linotte. Il se gare devant le collège, il est midi. Des grappes de jeunes commencent à sortir. Nina mange à la cantine. Il pénètre dans l'enceinte, bouscule des élèves, il a l'air d'un fou. Des tics incontrôlables le font cligner des yeux. Il voit d'abord Adrien, puis Étienne, puis elle. Les trois inséparables parlent ensemble dans un autre groupe d'élèves, un cercle de trois entouré par une quinzaine de collégiens. Nina est en suite. Elle n'a pas mis sa veste en laine. Il lui demande toujours de bien se couvrir à cause de son asthme, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Elle est là, gorge nue en avril, quand il ne faudrait pas se découvrir d'un fil. À quoi servent les dictons si on ne les applique pas? Celui que préférait Odile, c'était « Un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Adrien souffle à Nina qu'il est là, parce qu'elle relève la tête dans sa direction, le regarde, esquisse un sourire qui signifie « Qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié quelque chose à la maison ?» Avoir la colère qu'il a dans les yeux, qui lui mange le visage, avoir ses poings serrés et blancs, Nina comprend immédiatement « Le courrier !» Et en l'espace de 2 secondes, elle change de couleur. Il lui balance une première gifle, puis une deuxième. Un son sourd, qui résonne. Le silence se répand comme une traînée de poudre dans la cour. Les autres élèves sont choqués. Ils ne crient pas, restent paralysés, ne réalisant pas ce qui se passe. Un adulte agresse une élève dans l'enceinte du collège. C'est la première fois que Pierre Beau frappe Nina. Juste un coup de pied au cul à 6 ans, parce qu'elle avait peint les légumes du jardin avec de l'acrylique bleu. Il l'attrape par le col, la soulève de terre en la secouant et dit sur un ton à la fois suppliant et glacial « Mais est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Il pourrait la tuer sur place, la désintégrer. C'est le silence autour de lui qui le fait redescendre sur terre, reprendre ses esprits. Et moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il repose sa petite fille par terre, lentement, comme si ses gestes étaient ralentis par sa propre stupeur. Nina, un pantin, les joues rouges, la marque des doigts de celui qui l'a élevée, des larmes dans les yeux, comme des reflets de la fièvre. Pierre Beau réalise que tous les autres élèves le regardent. Un surveillant d'une 20aine d'années s'approche d'eux en annonçant « Qu'est-ce qui se passe ici ?»« Je te demande pardon », souffle Nina tout bas à son grand-père. Désemparé, Pierre Beau fait volte-face et s'enfuit presque comme un voleur. Quand il remonte dans sa voiture, il s'accroche au volant et se met à sangloter. Des spasmes nerveux. Il imagine qu'Odile l'observe de là où elle est. Jodassin, pas bien loin d'elle. Il imagine qu'elle ne lui pardonnera jamais ce qu'il vient de faire à leur petite fille. Avoue tout de même qu'elle l'a bien cherché. Odile ne répond pas. Elle fait la gueule. Jodassin va profiter de la situation, l'enfoiré.